RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, il est 7h09, c'est RMC, le week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous, si vous venez d'arriver chez nous. Votre matinée sur RMC, tout à l'heure vous retrouverez les GG du sport dès 10h. Mais auparavant, entre 8 et 10, Jean-Luc Moreau sera là, en chair et en os. Notre expert auto répondra à toutes vos questions, auto 3216. Et on s'intéressera au phénomène du moment, le SUV. Pourquoi ce segment, ce type de véhicule est aussi populaire? On verra que eh bien ça dépasse les frontières françaises. C'est un véhicule qui plaît à tous les Européens. On fera le point tout à l'heure et on vous présentera aussi toutes les dernières nouveautés en termes de SUV. Mais dans les médias, vous le savez, c'est les animaux. Jusqu'à 8h, Laetitia m'accompagne, répond à toutes vos questions animaux. Et pour cette deuxième partie, Laetitia, on va s'intéresser aux races de chiens ce matin.
Alors, oui, là, aux chiens de race. Et puis, surtout, tout simplement parce que la semaine prochaine a lieu le championnat de France des chiens de race à Dijon et aussi parce que on fête cette année les 130 ans du LOF, du livre des origines français, qui est si vous voulez, un registre avec tous les chiens de race. D'accord. Qui ont le pédigré. Mais ça nous permet de parler de notre relation avec le chien. La domestication du chien et toute cette histoire commune qu'on a eue avec le chien.
Qui est bien ancienne.
Et oui, nous allons le voir justement avec Éric Baratté, qui est historien et professeur d'histoire, co-auteur d'un livre qui s'appelle « Chien-chat, pourquoi tant d'amour ?» aux éditions Belin. Éric, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, bonjour. Découvrons avec vous l'histoire commune du chien et de l'homme. Alors, commençons par le commencement, la domestication. Le chien a été le premier animal domestiqué par l'homme, bien avant le cheval, la vache ou le chat. Sait-on depuis combien de temps le chien est notre compagnon et surtout, comment s'est fait sa domestication?
Alors, la date de domestication recule de plus en plus dans le temps. On a longtemps cru que c'était à peu près... il y a 15 000 ans,
oui.
Et maintenant on a trouvé des traces de domestication autour de moins 35 000 ans, ce qui évidemment est beaucoup plus...
Moins
35 000 ans, alors que les autres animaux domestiqués, par exemple le porc, la vache, etc., ça remonte à peu près à moins 12 000 ans, donc il y a un énorme décalage entre le chien, qui est vraiment de très loin l'animal le plus anciennement domestiqué. Alors pourquoi le problème, c'est qu'on ne sait pas.
Sait toujours pas.
Non, parce qu'on n'a pas de preuves. Alors on a les preuves de la domestication, parce que un chien domestiqué n'a plus la même morphologie qu'un loup, évidemment. Mmh. Sa morphologie change petit à petit. Mais pourquoi? Alors là, les hypothèses vont bon train. Il y a évidemment l'hypothèse de la chasse,
oui.
D'un auxiliaire de chasse. Il y aurait aussi peut-être l'hypothèse d'une simple domestication par les hommes pour montrer une espèce de maîtrise sur la nature, un espèce de jeu domesticatoire. L'autre idée, qui est plus intéressante à mon avis, parce qu'elle est plus complexe, c'est qu'il y aurait eu en fait une co-domestication. L'homme et le loup se domestiquant l'un et l'autre parce qu'ils s'aperçoivent, ils se seraient aperçus qu'ils ont des avantages mutuels à vivre ensemble, et notamment par exemple pour trouver des proies ou pour chercher des proies, eh bien il y aurait avantage à travailler ensemble. Et finalement là on arrive à l'idée que pour qu'il y ait une domestication, il faut évidemment que l'homme ait envie de domestiquer, mais il faut aussi que les animaux acceptent de se laisser domestiquer. Ça ne marche pas toujours.
Ils trouvent un intérêt, quelque part.
Il faut qu'ils trouvent un intérêt. Il y a beaucoup de domestications qui ont échoué parce que ça ne marche pas du côté des animaux. Et là, donc, il y a eu une co-volonté, si on peut dire, de vivre ensemble.
Alors, on sait qu'au Moyen-Âge, le chat a été diabolisé. Qu'en est-il du chien?
Alors aussi, en partie. Il est vrai que le...
Je crois que c'était pour l'Église aussi une espèce impure.
Voilà. Hein, la grande raison, elle est là. C'est que lorsque le christianisme se met en place, eh bien, le christianisme reprend à son compte des versets que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui ne sont pas très favorables aux chiens. Et le christianisme va reprendre cette idée que le chien est un animal impur, alors que le chien avait eu un statut très privilégié sous l'époque romaine. On ne mangeait plus de chien, on en avait fait en partie une espèce de compagnie, et tout ça disparaît avec la christianisation. Et alors on n'en fait pas un animal diabolique, mais on en fait un animal qui ne peut plus être un compagnon comme il pouvait l'être à l'époque romaine.
Ça veut dire que le chien de compagnie a existé à l'époque romaine?
Oui, alors il a existé même avant. On sait qu'il y a eu des chiens de compagnie, mais en proportion très... très faible par rapport aux autres utilisations du chien, qui pouvait être la chasse, qui pouvait être la garde, qui pouvait être aussi l'approvisionnement carné, puisque les Gaulois, par exemple, mangeaient du chien.
Les Gaulois mangeaient du chien.
Oui, ils mangeaient du chien. Les Germains aussi mangeaient du chien. Et en fait, ce sont les Romains qui ont imposé en Europe le fait de ne plus manger du chien. Et cette interdiction a été reprise par le christianisme. Alors non pas parce que c'était un animal privilégié, comme dans l'Empire romain, mais au contraire, parce qu'il était trop impur. Hein, et donc l'interdiction s'est prolongée jusqu'à nos jours. Donc il y avait beaucoup d'animaux, enfin il y avait des animaux compagnons, par exemple chez les Celtes, chez les Germains, chez les Gaulois, mais en très petit nombre. Et il y en a eu beaucoup plus à Rome, où là, c'était avec les oiseaux, le chien était l'espèce de compagnie la plus importante. Et tout ça, évidemment, s'effondre au début du Moyen-Âge avec la christianisation. Mmh. Et il va falloir attendre les 13e, 15e siècles pour qu'on voit réapparaître des traces de chiens de compagnie.
Surtout chez les rois, hein, je crois.
Voilà,
bien.
C'est l'aristocratie qui réinvente, on pourrait dire, le modèle du chien de compagnie.
Alors, on va parler tout à l'heure des races de chiens. Quand sont nées les races de chiens et qu'est-ce qui a motivé la sélection des chiens?
Alors, nos races actuelles, la plupart de nos races elles sont très récentes. Elles datent de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Oui, à peu près toutes nos races de chiens. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas de race. Mais le concept était différent. C'était des races, c'est ce qu'on appelle la notion de race régionale. C'est-à-dire que la reproduction des chiens n'était pas contrôlée au niveau régional, mais évidemment, à force de se reproduire au niveau local, au niveau régional, les chiens étaient arrivés à un type particulier. C'est ce qu'on appelle la race régionale.
Comme le Beauceron, le Briard.
D'autrefois, c'est-à-dire, alors, ça pouvait donner des chiens qui avaient à peu près la même morphologie, mais qui pouvaient être très différents, par exemple, au niveau des couleurs de poils, de toison. On pouvait avoir des couleurs très différentes. Et au 19e siècle, on impose une autre version de la race, c'est la version que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire c'est la version biologique. C'est-à-dire que la race est un ensemble de chiens qui ont la même morphologie, la même apparence de génération en génération.
Eric, vous restez avec nous. Il est 7h18, on va poursuivre sur les différentes races de chiens, puis sur l'histoire en fait hein, du chien vis-à-vis de l'homme depuis ces nombreuses années. Encore une fois, on a la conclusion et la certitude que le chien est le meilleur ami de l'homme, hein, Laetitia, ça il n'y a aucun doute là-dessus.
35 000 ans quand même. Hein.
Ça fait pas mal quand
ça
même, c'est une belle histoire d'amitié. Hein. On poursuit là-dessus avec donc Eric Baraté, nos invités, 32-16 si vous voulez réagir, ou bien animoir@rmc.fr, on est là dans quelques secondes, à tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà le week-end des experts sur RMC, merci d'être avec nous. N'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez nous appeler pour poser votre question animaux, 3216, ou même témoigner sur les chiens de race. Ce matin, nous sommes en direct, bien évidemment. Je vous rappelle que sur le site d'RMC, rmc.fr, vous retrouvez notre question RMC Wamiz de ce dimanche matin. Préférez-vous un chien de race ou un croisé ? N'hésitez pas, votez, vous avez plusieurs propositions. On fera un point tout à l'heure, mais je peux d'ores et déjà vous dire que, évidemment, en première position, à 41%, nous avons, peu importe, j'adopte
Dans les refuges,
évidemment.
Tout en sachant que dans les refuges, on a des chiens de race.
En plus,
bien sûr. On a tous les chiens dans les refuges.
Effectivement, puisqu'il y a des chiens de race aussi qui sont abandonnés et qui se retrouvent dans les refuges. Laetitia, on poursuit donc sur cette relation étroite entre nous, humains, et les chiens.
Et nous sommes toujours avec Éric Baraté, qui est historien. Alors, on apprend que dans le livre « Chien-chat, pourquoi tant d'amour ?», que la relation de l'homme avec son chien évolue aussi au cours des siècles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une relation qui est complètement différente de la relation qu'on pouvait avoir, même si c'est le même chien, qu'on pouvait avoir il y a quelques siècles.
Bien sûr. Alors, l'homme évolue sans arrêt. Il évolue dans ses demandes, il évolue dans ses besoins. Les conditions humaines d'autrefois ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et sans arrêt, donc, ce changement des conditions fait qu'on a des exigences très différentes vis-à-vis de ces chiens. On ne les considère pas de la même manière, on l'a vu, hein, il y a des époques où on peut très bien les considérer et d'autres époques où on les regarde un peu plus loin. Et donc tout ça varie. Il y a des époques où donc le chien c'est un garde-manger, il est là pour pouvoir être tué à un certain moment pour pouvoir être mangé.
Existe encore aujourd'hui, dans certains pays.
Tout à fait, en Chine du Sud c'est encore assez fréquent. Les Gaulois aimaient beaucoup les tapis de chien, hein, ça, la peau de chien, et c'était très bien pour se faire des tapis ou des vêtements. Donc on avait des troupeaux de chiens. Il y avait aussi le chien éboueur, c'est-à-dire qui servait finalement c'était le service des poubelles, hein. C'est-à-dire que comme on jetait dans les villages, on jetait des déchets tout autour des maisons, eh bien il y avait des bandes de chiens errants qui étaient là que l'on tolérait pour finir ces déchets, alors que l'on tolérait plus ou moins bien. Lorsqu'ils se faisaient trop pressants, on les chassait, mais on ne les exterminait pas parce qu'ils avaient une utilité. Et donc tout ça varie avec les époques, avec le temps. Nos exigences sont très très différentes. Nous n'avons pas du tout la même vision du chien actuellement que nous avions encore il y a un siècle. Il y a un siècle, le chien était avant tout un animal utilitaire, et alors qu'à partir des années 1950 à peu près, nous l'avons à peu près totalement converti en espèce de compagnie. C'est l'une des rares espèces qui a été comme ça totalement convertie. Alors il reste des chiens de chasse, des chiens de garde, mais c'est marginal par rapport aux chiens de compagnie. On a retourné totalement la proportion. Hein, il y avait peu de chiens de compagnie jusqu'au début du XXe siècle et beaucoup de chiens utilitaires, et on a retourné totalement la proportion.
Et alors demain, vous qui avez étudié l'évolution de la relation entre l'homme et le chien, comment sera d'après vous le chien de demain ?
Écoutez, le chien de demain, il y a deux tendances actuellement qui me frappent beaucoup. Il y a une première tendance qui est un peu dans la poursuite de ce qui s'est fait depuis une cinquantaine d'années, c'est-à-dire une intégration croissante du chien dans la famille, et on le voit bien par toute une série de phénomènes, hein. À la fois le fait que maintenant on entend de plus en plus de gens parler de leur chien comme leur enfant et s'adresser à leur chien en disant viens voir papa, viens voir maman, ou des choses comme ça. Ça pouvait paraître absurde il y a quelques décennies, ça n'est presque plus maintenant. Ils ont une qualité de vie qui augmente, puisqu'on s'aperçoit que même leur durée moyenne de vie augmente, tout à fait proportionnellement à celle des hommes.
Effectivement, oui.
Les maladies, d'ailleurs, les maladies de fin de vie sont les mêmes que pour les humains, puisque ce sont les cancers, ce sont les maladies cardiovasculaires en majorité, et évidemment parce que les chiens vivent dans le même environnement que nous. Ça, c'est la première tendance, je dirais. On poursuivrait cette intégration du chien dans la famille. Puis il y a une deuxième tendance qui est plus inquiétante. Moi, je suis frappé par quand même un certain retournement de l'image du chien avec le phénomène, depuis une vingtaine d'années, des chiens dangereux, qui ne sont pas dangereux naturellement, mais qui sont dangereux parce qu'ils sont élevés pour être dangereux. Le cas le plus typique, c'est celui des pitbulls. Hein. Maintenant, dès qu'on nous parle d'un pitbull, on a l'impression que c'est un chien biologiquement dangereux. Or, si vous prenez l'Amérique des années 1900-1950, lorsqu'on voulait un chien de compagnie pour confier à des enfants, y compris en bas âge, et on a plein de photos de l'époque où on voit des chiens, des petits chiens avec des petits enfants à côté, qu'est-ce qu'on conseillait ? C'était le pitbull. Le pitbull était le chien le plus affectueux et le plus sympathique pour les familles.
Donc il y a un vrai retournement de situation là dans ce cas précis.
Parce qu'on l'a totalement sélectionné depuis une trentaine d'années, on l'a totalement sélectionné et élevé pour devenir un chien dangereux. Et évidemment, par la sélection, par le choix de certains tempéraments dans la race, on a transformé l'animal. Et alors cette image de chien dangereux est en train quand même de faire des ravages sur l'image du chien, et ce n'est pas un hasard si en parallèle le nombre de chiens diminue depuis une quinzaine d'années en Occident au profit du chat.
Merci beaucoup Eric.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes historien et co-auteur d'un livre qui s'appelle Chien chat, pourquoi tant d'amour, qui vient de sortir aux éditions Belin.
Bon, Laetitia, est-ce que vous appelez vous dites à votre chien viens voir maman ou pas encore?
Pas encore.
Bon, faites attention hein. Faites attention, je vous surveille. Parce que de temps en temps vous venez avec Indy, je ne veux pas entendre ce genre de vocabulaire.
Pourquoi?
Non. Il n'y a même pas d'explication. Non, pas tout de suite.
En tout cas, elle fait partie de ma famille, c'est sûr.
Ah, mais ça, c'est certain, évidemment.
Comme mon chat, comme...
Évidemment, évidemment.
Mais oui, mais l'animal a pris une telle place dans les familles. C'est normal, c'est normal. Il nous apporte tellement, justement, nous allons en parler.
On en parle tout de suite avec notre invité. Et puis, sachez aussi qu'à tout moment, vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser toutes vos questions dédiées aux animaux. Et puis alors là, on parle des chiens de race. Hein, on va parler maintenant du comportement, etc. N'hésitez pas, 3216, témoignez, dites-nous si vous avez craqué pour un chien de race ou si vous êtes allé tout simplement en refuge. Racontez-nous. Et puis Laetitia, tout à l'heure, on va retrouver une vidéo rigolote pour terminer ce rendez-vous animaux. C'est un humain qui imite
à la perfection les animaux.
Des bruits d'animaux. Alors bon, vous dites c'est une vidéo, ça va être un peu compliqué, hein. Eh bien, on vous fera écouter en fait la bande son de cette vidéo et c'est vraiment très très drôle. Donc on va revenir dans quelques instants sur RMC après la météo et les infos de 7h30. On poursuivra bien évidemment sur ce thème. 3216 animaux@rmc.fr, on compte sur vous. On est là dans quelques secondes, à tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC.
Attention Laetitia, une petite question flash.
Ah oui.
Oui.
Vous n'êtes pas venu qu'avec Indy, visiblement aussi. Hein. Et c'est la question de Nathalie que nous avons reçue sur la page Facebook de Vos animaux sur RMC. Au passage, vous cliquez sur...
J'aime.
Voilà. J'ai deux poules depuis 3 ans, nous dit Nathalie. Une Sussex.
Sussex,
c'est comme ça qu'on dit. Hein. Et une Marance.
Oui, qui fait des œufs chocolat. Pas au chocolat, mais la coquille.
Couleur chocolat.
Parce
que ça, c'était pratique. La Sussex nous fait des œufs avec coquille molle, Laetitia. Alors, on lui donne pourtant des coquilles d'huîtres pliées, des vitamines. Mais ça continue. Que faire?
Ah oui, les œufs mous. Les œufs mous, c'est bien aussi. Comme ça, on n'a pas à les casser. Ils se cassent pas.
Bon. Mais je sais pas si c'est comestible, tout ça.
C'est comestible. C'est comestible. Mais juste le problème, c'est que ça signe un manque en calcium.
Eh oui.
Une carence en minéraux.
La coquille de l'œuf, c'est du calcium.
Voilà, c'est des minéraux. Alors, les coquilles d'huîtres, c'est super parce que c'est une source importante de calcium, mais il faut le donner au bon moment dans la journée.
Ah.
Il faut le donner le soir. Pourquoi? Parce que elles sont stockées dans le gésier de la poule et ça fait un relargage pendant la nuit du calcium. Or, c'est la nuit que sont fabriqués
les œufs.
Les œufs dans l'organisme. Donc, il faut le donner le soir.
Donc, c'est une question de timing.
Voilà. Et vous pouvez donner des vitamines, mais surtout, vous donnez un complément, en plus des huîtres, des coquilles d'huîtres, vous donnez un complément en minéraux que vous aurez chez votre vétérinaire qui va renforcer cet apport en minéraux. Hein, donc, coquilles d'huîtres le soir, plus un complément minéral. Et puis moi, je vous conseillerais aussi de vermifuger vos poules, parce que peut-être qu'il y a un problème d'assimilation au niveau intestinal dû au fait qu'il y ait des vers dans les intestins. Voilà.
D'accord.
Donc, coquille, le soir,
complément
minéral, plus vermifuge. Et voilà, c'est déjà bien.
RMC, c'est au 32-16. 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 8h-25, c'est RMC. Un excellent dimanche avec nous. Et un bon réveil si vous venez peut-être de nous rejoindre. On salue tous ceux qui travaillent en ce dimanche matin et on sait qu'ils sont nombreux. Un petit coucou aux fleuristes qui, aujourd'hui, vont avoir un peu de boulot. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et on embrasse toutes les mamans.
Évidemment, on fait un gros bisou à toutes les mamans qui nous écoutent. Voilà. Et j'espère, on espère que vous allez être gâtés. Laetitia, nous sommes ensemble jusqu'à 8h pour notre rendez-vous animaux. Un mot pour la suite, puisqu'à partir de 8h, juste après les infos, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour l'automobile avec toutes vos questions auto et un spécial SUV tout à l'heure. Entre 9h et 10h, vous saurez tout sur ce type de voiture qui a énormément de succès en France. Pourquoi ? On essaiera de répondre à toutes ces questions tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on revient à notre rendez-vous sur les chiens de race. Et on en parle avec notre invité.
Et nous avons avec nous Anne-Marie Classe de la Centrale Canine, ex-société Centrale Canine, responsable de la communication à la centrale. Et elle est, et vous êtes également, pardon, juge et présidente du club du Mastiff et du Bull Mastiff.
Tout à fait.
Oui, bonjour Anne-Marie, merci
bonjour.
D'être avec
bonjour.
Nous. Alors, le LOF, qui est le livre des origines françaises, fête ses 130 ans d'existence cette année. Alors, dites-nous en quelques mots ce qu'est le LOF, à quoi sert-il ?
Alors, le LOF, c'est le livre donc qui répertorie tous les chiens de race en France. Il y a un livre des origines, c'est le livre des origines. Donc, il y a un livre des origines pour l'espèce bovine, équine, etc. Et il y a un livre des origines dans chaque pays. Il y en a un qui est reconnu par le ministère de l'Agriculture pour les livres des origines
donc
étrangers.
Donc ça répertorie tous les chiens qui ont un pédigré.
Voilà, tous les chiens qui ont un pédigré, leur généalogie figure sur ce livre des origines.
On a combien de races en France ?
Alors en France, on a toutes les races qui existent et qui sont reconnues par la Fédération Cynologique Internationale, c'est-à-dire qu'il y en a environ, si je dis environ, c'est parce que ça bouge,
oui.
360.
Ah,
parce que comme l'a dit votre interlocuteur précédent, effectivement, il y a des races régionales, alors qui ont en partie disparu, mais qu'on peut reconstituer. Voilà, donc il peut y avoir des reconnaissances de races qui existent ici et là, et qui pour le moment sont juste à l'état anecdotique en quelque sorte, mais qui existent bien.
La race la plus ancienne de chien et la plus récente.
Alors, la race la plus ancienne, on peut pas dire qu'il y ait une race la plus ancienne à proprement parler.
Ou
puisque,
au moins dans le livre.
Dans le livre, le premier inscrit, je pense que c'était un griffon,
oui.
Probablement un griffon nivernais qui s'appelait Marco. Voilà, donc un chien de chasse.
Ah, Marco, ça a été le premier inscrit dans le livre.
Je crois que c'est le premier.
D'accord. Oui. Et la race la plus récente qui a été créée?
Alors, la race la plus récente, on peut en parler, oui, c'est ce qu'on appelle le Conti. Le Conti, c'est une race qui a été créée par une éleveuse suisse.
Oui.
Et on peut dire un petit peu que ça restaure une race qui existait déjà en France à la fin du 19e siècle et au début du 20e, qu'on appelait un Dauguin.
C'est quoi ?
Et c'était un petit dog. C'est intermédiaire entre, par exemple, la taille d'un bulldog anglais,
oui.
Et la taille d'un bull mastiff. C'est un boxer un peu plus court, si vous voulez.
D'accord. Et ça s'appelle le...
Et ça s'appelle un Conti.
Un Conti.
On dit bien. Un Continental Bulldog, mais
ah oui.
C'est un Conti.
C'est pas mal, ça sonne
voilà,
bien.
Voilà, ça sonne bien.
Alors, on parle de chien de race, mais quelle est la vraie définition d'un chien de race ? Comment dit-on ? Voilà, est-ce que c'est il faut qu'il ait le pédigré, c'est ça ?
Oui. Alors en France, au terme de la loi, pour être reconnu en tant que race donnée, un chien, il doit être inscrit au livre des origines français ou à un livre des origines étrangers reconnu par le ministère.
Alors comment être inscrit ?
Alors, comment être inscrit ? Ben, ce sont les éleveurs qui inscrivent les portées, c'est-à-dire que quand un éleveur fait produire deux chiens, il fait une déclaration, ce qu'on appelle une déclaration déjà pour annoncer la saillie,
oui.
Et puis après, pour annoncer la naissance, et tous les chiots sont inscrits, tous les chiots de la portée.
Oui, mais ils n'ont pas le pédigré. Alors, ils ont ce qu'on a... C'est-à-dire que, voilà, moi particulier, j'achète un chien de race à un éleveur. Oui. Il me donne un papier qui est un certificat de naissance. Comme quoi, et sur ce papier, on a le nom des parents, voilà, des grands-parents. Mais c'est pas le papier du pédigré, ça, il n'est pas encore inscrit.
Alors, il est inscrit, si, il est bien au livre des origines françaises. Mais en France, on a ce qu'on appelle la confirmation, qui est une formalité qui est très intéressante pour la sélection de l'espèce canine, parce que déjà, ça permet de visualiser une grande partie du cheptel. Donc après, le chien, il passe devant un expert.
Un juge.
Mais à quel âge, à ce moment-là ?
Ça dépend des races de chiens, ça s'étale entre 10 et 15 mois. D'accord. Mais on peut le faire à n'importe quel âge, hein. On peut faire cette formalité à 9 ans, par exemple.
Il finit sa croissance.
Voilà, il faut qu'il ait fini sa croissance. Il passe donc devant un expert qui regarde alors deux choses. Regarde la conformité aux standards de la race, qui est donc la description de la race. Et puis, il regarde aussi que le chien ne présente pas de caractéristiques invalidantes.
C'est-à-dire
par exemple, il faut qu'il voit clair, il faut qu'il entende. Visible, je parle de caractéristiques visibles, parce que le juge n'est pas un vétérinaire.
Mais alors vous êtes juge, donc vous jugez des chiens. Alors vous donnez aussi des pédigrés, ou vous n'en donnez pas d'ailleurs. Donc le physique est très important, puisqu'il doit être la taille du standard, le poids, le poil, la couleur, etc. Est-ce que le mental aussi est pris en compte ?
Mais
est-ce
oui.
Parce que c'est ce qu'on vous a reproché pendant longtemps au juge, c'est de regarder le physique du chien et ne pas sélectionner
le caractère
oui. Sociable, sensible ou pas.
Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que ça a toujours été marqué dans les standards quand même, le caractère, puisque en fin de compte, les races de chiens, elles ont été sélectionnées pour une utilité donnée. Donc, il faut que le chien, il ait le caractère qui se prête à cette utilité. Voilà, donc le mental, ça a autant d'importance que le physique, ça fait partie d'un tout.
Donc, ça veut dire que si le chien se présente et vous mord, vous lui donnez pas le pédigré.
Ah ben non.
C'est déjà arrivé.
Ça peut arriver, mais c'est rare.
C'est rare quand même.
Ouais.
Et s'il arrive et qu'il est peureux ?
Alors, c'est la même chose, mais enfin, on laisse toujours la chance au chien, parce qu'il y a aussi une question d'éducation. Du chien, il faut quand même que le chien il soit socialisé. Si on l'amène pour la première fois, un chien qui est jamais sorti de chez lui,
oui.
Ce qui est une erreur. Si on l'amène pour la première fois en exposition, qui est un endroit quand même assez stressant, enfin avec d'autres chiens, quand on n'a pas connu ce genre de situation, eh bien, il va être un petit peu surpris. Alors, il peut être un peu peureux, un peu agressif, voilà.
Donc vous non mais c'est important aussi de
non mais il faut en tenir compte.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Alors vous savez que chaque année donc la Centrale Canine donne le palmarès des chiens de race préférés des Français, puisque c'est d'après le nombre de chiens inscrits à ce fameux LOF. Alors en 2014, parce que là on vient d'avoir les résultats de Michael Store, qui est dans le top 5.
Alors dans
on
le top 5.
On pourrait jouer Laetitia d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Vous le savez.
Moi je le sais.
Bon, est-ce qu'il y a le Labrador, toujours ?
À votre avis ?
Moi, je dirais le Labrador.
Eh bien, le Labrador n'est pas dans les 5.
C'est pas possible.
Eh ben,
Oh, alors là, je suis...
Loupé. Il est dans les 10. Hein.
Bon,
oui, d'accord. Il est dans les 10. Voilà. Le Chihuahua est dans les 10, mais il n'est pas dans les top 5.
Le York est dans le top 5.
Non, il est dans les 10. Alors, je suis désolée, mais rapport à ce qu'on a dit précédemment, justement, ce ne sont pas des races de compagnie qui sont dans le top 5. Il n'y en a aucune dans le top 5,
c'est vrai.
Ah bon ?
Ouais, les deux premiers, c'est berger allemand, berger belge.
Ouais.
Donc des chiens au départ de berger, mais qui sont des chiens de garde. Après, il y a le Golden Retriever.
Ah, le Golden Retriever.
En troisième position.
Okay. Et un Retriever,
oui.
Mais bon.
Ok.
Après, il y a l'American Staffordshire Terrier.
D'accord.
Voilà, qui est une race, malgré la catégorisation, qui est quand même toujours en augmentation. Et puis, il y a une race qui monte, le berger australien.
Alors, excusez-moi, vous avez parlé de catégorisation. Qu'est-ce que ça veut dire, Laetitia ?
Alors, on a des catégories de chiens, des chiens catégorisés, pardon. Vous savez qu'il y a une loi contre les chiens dits dangereux. Et on a catégorisé sur le faciès, en fin de compte, sur la race, deux catégories de chiens. La première catégorie, c'est ce qu'on appelait le pitbull, ce dont on parlait tout à l'heure. Et la deuxième catégorie, on a Rottweiler, de race ou pas, et l'Amstaff. Voilà.
D'accord. Très bien. Et donc, ce chien fait partie des cinq races
oui,
les plus plébiscitées.
Tout à fait.
Hein.
Mmh.
D'accord.
Et puis on a le berger australien qui est un chien vraiment. Oui, et c'est vraiment le chien qui a percé ces 10 dernières années. Hein. C'est vraiment le chien qui est, c'est vrai que c'est un beau chien et qui est vraiment le chien. Je dis pas devenu. Si, il est un peu à la mode, on va dire, mais qui a vraiment percé. Est-ce qu'il y a d'autres chiens qui ont percé comme ça ces dernières années?
Dans les molossoïdes, il y a le Canet Corso qui est dans le top 10.
Ouais, c'est vrai.
Qui est une grosse race qui a bien percé.
J'imagine que les médias aussi influencent, non, ce classement. Quand il y a un film qui sort avec, on se souvient du phénomène Beethoven, par exemple, qui mettait en avant ces gros chiens, etc. On peut imaginer que ça avait malgré tout incité les gens peut-être à se tourner vers ce genre de race, non?
Oui, ça augmente la demande, mais c'est quand même très ponctuel malgré
D'accord.
tout. Heureusement. Heureusement.
Oui, parce que c'est pas voilà.
Parce que dans les modes sur les races de chiens, c'est pas très bon parce qu'après il y a une production anarchique et
voilà et beaucoup de trafic aussi. Beaucoup de trafic. Et en petits chiens, quel est dans le top 10 les petits chiens de compagnie?
Il y a le chihuahua de Laetitia forcément.
Alors, il y a le chihuahua qui a fait une grosse montée,
d'accord.
Oui, et puis mais un petit peu avant le chihuahua, il doit y avoir le cavalier King Charles.
Ah oui.
Ouais. C'est un chien très très facile, très gentil, très joueur.
Le standard du chien de compagnie, le cavalier King Charles, c'est sûr.
Il est 8h moins le quart. Bon, maintenant, vous savez tout sur le top 10 des chiens de race. Vous en apprenez des choses ce matin sur RMC. C'est pas terminé. On va poursuivre avec notre invité, le 3216, animaux@rmc.fr, si vous voulez nous joindre. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h47, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Merci d'être avec nous. 3216 pour nous joindre ou bien animaux@rmc.fr. Laetitia, on fait un petit point sur notre sondage, sur notre question RMC Wamiz. Vous le savez, chaque dimanche, on vous interroge sur l'un des sujets liés aux animaux que nous abordons dans cette émission. Préférez-vous un chien de race ou un croisé?
Alors sur Wamiz.
Alors on y va.
On a peu importe. Pour 50%, vraiment un internaute sur deux.
RMC et 43% sur RMC.
Voilà. Et un chien de race pour 31% des internautes.
35% sur RMC.
Voilà. Et puis le reste.
Et puis un croisé, ils vivent plus longtemps, on a 22%. Donc ce sont des résultats qui sont quand même assez similaires. Hein,
oui.
À la fois sur le site web d'RMC et sur le site de Wamiz.
Exactement. Et ce, un peu peu importe. Alors, qu'est-ce que vous inspirent ces résultats, Anne-Marie Classe?
Alors, peu importe, oui, effectivement, parce que le chien, c'est un merveilleux compagnon, quel qu'il soit. Ceci étant, pourquoi on prend un chien de race? Ça, c'est une question intéressante.
Et
parce que, en fin de compte, l'espèce canine, s'il y a 360 races de chiens, c'est parce qu'il y a des utilisations différentes du chien. Et quand on prend un chien, je crois que c'est très important de se renseigner sur la race. Et un chien de race, justement, il y a une traçabilité. Et ça correspond à un caractère donné. Par exemple,
ce qui attire le plus, c'est le physique du chien quand on dit « je veux telle race » ou c'est son caractère?
Eh bien justement, c'est une bonne question, ça devrait être son caractère. Parce qu'on va vivre une dizaine d'années avec le chien. Et par exemple,
voire plus,
18 ans, ça peut être, même un peu plus, c'est quand même assez rare. Et si on habite à Paris, par exemple, mais qu'on est sportif, on peut vouloir, par exemple... un petit chien, parce qu'on est en appartement, mais avoir un chien pour faire un peu de sport, un chien qui soit joueur, on peut prendre par exemple un fox terrier ou une race de terrier. Ce sont des chiens qui sont très vifs, très joueurs, qui demandent un petit peu de doigté dans l'éducation parce qu'ils ont un petit peu de caractère, justement. Voilà, donc on sait ce qu'on va avoir. C'est à ça que ça sert un chien de race, en fin de compte.
Oui, c'est vrai qu'un croisé, des fois, on ne connaît pas.
C'est incertain, le devenir après. Enfin, le devenir morphologique, je veux dire.
Moi, une question quand même. Le berger allemand, on a dit que le berger allemand, c'était le premier dans votre liste, enfin, dans le palmarès de la centrale canine.
Dans le top des chiens les plus populaires.
J'en vois pas énormément.
C'est vrai.
Et c'est pas un chien qu'on, par exemple, en ville, on voit beaucoup de Jack Russell Terrier, de Bulldog français,
c'est
de
York.
C'est
pas un chien de ville aussi, Laetitia,
voilà.
Non?
Mais même à la campagne, quelle est l'utilité ça m'a toujours étonné que le berger allemand soit toujours le premier en France.
Oui, alors il est quand même bien talonné par le berger belge, mais qui est quand même une race qui ressemble. Effectivement, ce sont pas des chiens de ville. Ce qu'il faut savoir aussi, ce sont des chiens qui se prêtent merveilleusement à l'utilisation. Oui. C'est-à-dire qu'on peut les éduquer pour tout un tas de choses, le pistage, la recherche utilitaire, hein, parce que le chien, c'est vraiment le meilleur ami de l'homme quand même. Ils nous servent à quelque chose. Ça peut être la défense, ça peut être les chiens de protection, par exemple, à la RATP. Je crois qu'ils ont des malinois.
Oui.
Voilà, ça peut être des chiens de gendarmerie, des chiens de recherche en décombres.
Oui, donc il y a beaucoup de chiens d'utile. Ouais. Est-ce qu'on exporte nos chiens ?
Alors oui, la France est un pays exportateur de chiens, oui.
Nos lignées sont reconnues dans le monde ?
Oui, parce que en France, on a toujours, et depuis très très longtemps, on a toujours été vigilant sur la santé mentale du chien, sur son aptitude à l'utilisation, et sur la santé aussi, sur les tests de santé. Par exemple, il faut savoir qu'un chien ne peut pas être champion de France, puisqu'on va avoir le championnat de France à Dijon, s'il n'a pas subi les tests de santé qui sont demandés dans la race.
D'accord.
Et c'est probablement le seul pays au monde où c'est comme ça.
Ah oui, très bien. On a une petite question mail qui est assez intéressante, c'est celle de Véro qui nous dit « J'ai deux chats et je voudrais prendre un chien. Un lévrier persan, ça s'appelle le Saluki. Est-ce que vous connaissez le Saluki ?»
Oui.
Il y a un élevage pas loin de chez moi, mais il me propose un chien de 8 mois qui n'a pas été en contact avec des chats. Et je pense qu'il vaut mieux qu'il soit plus jeune. Que pensez-vous de cette race, déjà, hein, première question, le Saluki. Et à quoi faut-il faire attention pour le choisir ?
Ah !
Alors, le Saluki, qui répond ?
Je dirais que 8 mois, c'est un peu tard.
Oui, c'est-à-dire pour la socialisation au chat, c'est tard.
Qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que quand le chien va arriver...
Il peut les prendre pour des proies aussi.
Voilà, parce qu'il sera trop vieux, entre guillemets, c'est
oui,
ça ?
Oui, ça peut... Au début, la cohabitation peut être difficile, parce que c'est pas des chatons, ce sont des chats adultes. C'est un chien qui a 8 mois, qui n'a jamais rencontré d'autres chats. Donc au début... Alors, les deux chats peuvent aussi faire la loi dans la maison et bien indiquer au chien avec 2-3 baffes que c'est eux qui contrôlent la maison. Et le chien, parce qu'il a un caractère où il se dit « bon, là, c'est bon, il faut les laisser tranquilles », ça se passera bien. Comme ça peut si mal se passer, le chien peut mal réagir.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, le Saluki, c'était quand même un chien de chasse.
Eh oui.
C'est un
chien de chasse, comme tous les lévriers.
Comme tous les lévriers.
Bien sûr.
C'est interdit maintenant en France, mais ils ont quand même gardé une aptitude à la poursuite.
Hein. On voit à quelle vitesse ils se déplacent. Hein. C'est impressionnant,
mais
le lévrier.
Ils ne courent pas pour courir, les lévriers. Ils courent après un leurre, qui est le leurre, qui est un leurre de proie.
Oui, mais ça prouve qu'ils ont des prédispositions à pouvoir pister et poursuivre une proie.
C'est ça qui m'inquiète un petit peu avec ces chats. Ça dépend comment est le chien, s'il peut être facilement soumis, on va dire, entre guillemets, par rapport aux deux autres chats. Alors, c'est un peu la roulette russe. Hein, oui.
Donc, vaut mieux, enfin, dans le cas, là, on va peut-être pas rentrer dans les détails pour le cas de Véronique.
Vaut mieux le prendre à 2 mois.
Mais vaut mieux le prendre à 2 mois, juste après qu'il soit sevré, en fait.
Oui, l'âge légal d'adoption, en période de socialisation.
Et voilà, alors, que pensez-vous de cette race, Saluki ? C'est un chien sympa ou pas ?
Oui, mais qui a besoin d'exercice physique.
Et oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut véritablement... courir avec lui et voilà, le sortir régulièrement et lui faire l'exercice. Autre question qui nous arrive par mail, c'est celle de Marianne. Ma belle-fille vient d'accoucher, alors félicitations Marianne. Et les autres enfants ont récupéré un chaton. Et de source médicale, il faut prendre un chat adulte quand on a un nourrisson, car les chatons sont une source allergène non négligeable. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça, Laetitia ? C'est une question qui vient juste d'arriver.
J'ai pas compris la question.
Mais en fait, est-ce qu'il vaut mieux prendre un chat adulte ou un chat, un petit chat ?
Parce qu'il y a un bébé.
Voilà.
Mais vous savez qu'il y a eu beaucoup d'études faites sur justement la présence d'un animal auprès d'un enfant, surtout un enfant en bas âge, et il s'avère que si l'enfant en bas âge grandit avec un animal, il a moins de risques de devenir allergique.
Mais que ce soit un chaton ou un chat normal, parce que la question de Marianne, c'est que le chaton est moins conseillé, vaut mieux avoir un chat adulte, parce que le chaton pourrait proposer plus d'allergènes, en fait.
Justement, les scientifiques disent que c'est le contraire. C'est
d'accord.
Au moment où justement l'animal commence à sécréter des hormones sexuelles, qu'il commence à avoir encore plus d'allergènes au niveau de la peau, des glandes sébacées, etc.
Donc c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Donc vaut mieux prendre, si on a un nouveau-né, un petit chat, un chaton.
Oui, oui, bah bien sûr, ou même un chat adulte. De toute façon, c'est pas parce que il est chaton et que il va grandir avec le bébé qu'il n'aura pas d'allergie. C'est pas non plus à 100%.
D'accord. Après, il y a des règles sanitaires à respecter dans ce cas précis. Quand il y a un bébé qui arrive dans une maison avec des animaux, il y a des choses particulières à surveiller.
D'abord, il faut demander au vétérinaire si les animaux sont en bonne santé et surtout les vermifuger, puisqu'on a un risque de transmission de certains vers à l'enfant. D'accord. Mais si on vermifuge régulièrement son animal et qu'on le nourrit aussi avec des aliments industriels où il n'y a pas de risque de passage de vers, il n'y a aucun problème.
Et l'animal peut s'approcher du nourrisson sans aucun problème?
Oui.
Il n'y a pas de souci?
Oui. Il faut juste éviter. Alors, on a toujours peur que l'animal, que le chat aille dormir dans le couffin.
Oui, c'est vrai que c'est une crainte, qui pourrait étouffer le bébé.
Etc. C'est une crainte, alors que ça n'a jamais été prouvé, mais bon, je comprends la peur que peut avoir la maman et le papa. Dans ces cas-là, moi, je mets tout simplement un voile sur le
landau.
Sur le landau, moustiquaire, si vous voulez, pour éviter que le chat vienne Parce que le chat va venir, il sera tenté de venir auprès du bébé, parce que premièrement, le bébé sent le lait. Deuxièmement, c'est très chaud et c'est très cocooning. Donc, ils aiment bien les endroits. Il sera curieux et voilà.
Bon, très bien. En tout cas, pas de souci, Marianne, pour votre belle-fille. Un petit chat qu'un grand chat. Hein.
Oui, n'importe.
Laetitia, on va se dire au revoir. On remercie notre invitée. Merci beaucoup, Anne-Marie Classe, pour toutes ces précisions concernant les chiens de race. Et on va terminer avec notre vidéo LOLCAT.
Et juste pour préciser que la semaine prochaine, à Dijon, il y aura le championnat de France des chiens de race. Et vous aurez toutes les races de chiens. Si vous êtes curieux de savoir...
Est-ce que Indy va défiler, Laetitia?
Non.
Indy ne défile pas.
Non.
Bon, très bien.
J'ose pas le dire, mais elle a pas le pédigré.
Ouh là 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 là. Mais c'est pas grave.
C'est pas grave.
Allez, Laetitia, on termine avec notre vidéo LOLCAT. Alors, écoutez bien notre vidéo du jour. Vous allez pouvoir retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. C'est un humain qui imite des cris d'animaux.
Écoutez bien.
Donc ça, c'est la poule, hein, Laetitia. Donc, le coq. Vous pouvez commenter, Laetitia.
Hein.
Ah, ça surprend, hein.
Ça, c'est le mouton.
Ça, qu'est-ce que c'est,
poussin.
Ça pousse. Ouais.
Les oiseaux.
D'accord.
Pigeon.
C'est pas moi qui fais les cris, je tiens quand même à le préciser. Hein. Oula, ça c'est quoi? C'est le singe? Non, c'est quoi? Bon, ça évidemment. C'est notre réalisateur. Non, pardon.
Et ça?
Et alors donc, ce personnage fait tout d'un coup là, d'affilée, si vous voulez. Alors c'est drôle parce qu'il faut voir la vidéo, parce que en plus il y a les grimaces, etc.
Les grimaces, oui.
Tout ça. Donc et ça dure 3/4 d'heure, donc vous avez le temps hein, quand même. À retrouver donc sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Bon, Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, on sera là.
Oui, je vous souhaite un très bon dimanche, un gros Mac pour toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans et en particulier à la mienne. Et puis surtout, très bon dimanche et à la semaine prochaine. Je vous embrasse.
Enfin, encore une fois, un gros bisou à toutes les mamans. Dans un instant, ça sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. 2 heures dédiées à l'auto, vous le savez, avec vos questions au 32-16. Après la météo et les infos. À tout de suite.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.